Invité du grand entretien de France Inter, Julien Bayou, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Julien.
Bonjour.
Bayou. Le porte-parole national que vous êtes, est-il en difficulté ce matin pour définir la ligne politique d'Europe Écologie Les Verts après votre succès aux européennes?
Ah ben non, au contraire, ça a rarement été aussi simple.
Expliquez-moi.
Eh bien c'est l'affirmation de l'écologie, tout simplement. C'est la ligne que nous avons portée aux élections européennes, contre vents et marées d'ailleurs, qui nous a amené à ce beau succès de 13% derrière et autour de Yannick Jadot. Et c'est l'idée tout simplement qu'il faut organiser une alternative à l'extrême droite, bien sûr, mais aussi à ce statu quo libéral qui finalement le nourrit. On constate que les politiques d'Emmanuel Macron, bien loin de dévitaliser le vote Front National, l'installent jour après jour.
Mais je vous pose la question, vous parlez de Yannick Jadot, votre tête de liste aux élections européennes. Il veut créer un pôle autour de l'écologie sans se limiter au camp de la gauche. Il soutient l'écologie et de droite et de gauche. Il se veut pragmatique. Est-ce que c'est la bonne stratégie selon vous, ou
alors,
faut-il le recadrer?
C'est pas ce qu'il a dit, mais
nous disons
l'affirmation de l'écologie, et bien sûr l'écologie est issue de la gauche, mais elle peut pas s'y limiter. Et moi je pense qu'il y a des municipales qui vont arriver. Je pense que dans un certain nombre de villes, on peut envisager d'arriver en tête, souhaiter d'arriver en tête, et tout faire pour justement l'emporter. Je pense à Besançon, par exemple. Anne Vigneault peut être la prochaine maire de Besançon. Éric Piolle peut confirmer l'essai à Grenoble. Julie Lahernes à Nantes. Et je pourrais continuer. David Béliard à Paris. Antoinette Gull dans le 20e. Et là, l'idée, vous voyez, c'est d'affirmer l'écologie. Et donc, autour de l'écologie, et je dis bien autour de l'écologie et pas forcément autour de ELV, nous on va affirmer le leadership de l'écologie. Et donc s'il y a des personnes qui finalement se disent, eh bien maintenant, avec le rapport du GIEC par exemple sur les sols, la priorité c'est l'écologie, eh bien évidemment, ils et elles sont les bienvenus pour nous aider à transformer. Et les leviers locaux, c'est vraiment le bon échelon pour lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi pour améliorer la situation en période de canicule, pour offrir des cantines bio aux enfants. Et donc dans ces villes-là, on peut gagner. Et donc c'est finalement aux autres forces de se positionner par rapport à une idée nouvelle, celle que porte Europe Écologie Les Verts.
Mais il pourrait y avoir des alliances avec des partis de droite, avec des représentants du mouvement d'Emmanuel Macron, La République En Marche?
Bah écoutez, je ne sais pas si vous voyez ce que les écologistes combattent jour après jour dans les conseils régionaux, ça me fait sourire, parce que je pense aux batailles acharnées contre les politiques de Laurent Wauquiez que mènent les conseillers régionaux en Rhône-Alpes-Auvergne, ou avec mes petits camarades face à Valérie Pécresse. Non, il n'y a pas évidemment à imaginer de quelconque alliance avec Laurent Wauquiez ou avec les tenants de la casse des services publics, ou ce gouvernement qui finalement mène une politique anti-écologiste. C'est bien ça le problème, c'est-à-dire que malgré toutes les alertes lancées par les scientifiques, je reviens sur ce rapport du GIEC qui nous dit clairement les terres sont menacées. On a un budget de gigatonnes de carbone qu'on est en train de dépenser à vitesse grand V. Et bien ce gouvernement, bien loin d'engager la transition nécessaire, autorise les forages en plein août. En Guyane, et il y a un maire divers sans étiquette, je crois, à Largouette en Bretagne, qui pose un arrêté anti-pesticides pour protéger les habitants. Eh bien, il se retrouve devant le tribunal le 22 août. Nous, on veut le soutenir, évidemment.
Julien Bayou, mais que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez peut-être pris un peu la grosse tête avec vos 13,5% aux élections européennes? Aujourd'hui, pour l'emporter, il faut 51%.
Il faut arriver au second tour, si vous parlez de la présidentielle. 13%, voilà, il faut relativiser. C'est un score qui n'est pas...
C'est-à-dire qu'il faut parler à d'autres.
Bien sûr. Mais c'est aussi un score très important. Voyez, Europe Écologie Les Verts, je peux en témoigner, on revient de loin. On a eu des périodes très difficiles, financières. On a eu, en nombre d'adhérents, ça a été également très difficile. Et là, ces 13%, eh bien, c'est quand même historique. C'est 3 millions de voix. Et c'est aussi le fait d'arriver devant les formations de gauche et devant les formations de droite, j'ai envie de dire conservatrices classiques. Et donc ça nous donne une responsabilité. Et ça, on n'a vraiment pas envie de rater, de retomber dans des travers. Et donc ces journées d'été qui s'ouvrent à Toulouse le 22 août, c'est l'occasion d'affirmer cette maturité. Et j'ai aussi envie de dire cette humilité. Il y a une tâche immense qui est d'offrir une alternative heureuse, de protéger l'avenir pour ce pays, de projeter la France à 30 ans. Voilà, dans quelle France voulons-nous que nos enfants grandissent?
Mais Europe,
et donc,
écologie...
On ne pourra pas le faire tout seul. Donc, Europe, je réponds à votre question. Voilà. Bien sûr qu'il faudra s'ouvrir, bien sûr qu'il faudra discuter avec d'autres mouvements autour de la priorité, qu'est
l'écologie.
Uniquement
à gauche?
Non. Je pense qu'il y a... Vous savez, quand je discute avec des très jeunes manifestants, des adolescents qui manifestent pour la première fois pour le climat, moi, ça me tire les larmes. Eux se positionnent pas forcément par rapport à la gauche plurielle, qu'ils n'ont pas connue. Ils sont nés après. Par contre, ils se positionnent sur une radicalité, une cohérence et une envie d'action. Et donc, je crois qu'on doit passer de tous les grands discours qu'on entend. Il y a 17 ans, c'était le discours de Jacques Chirac à Johannesburg, la maison brûle et nous regardons ailleurs. On a vu cet été, la maison brûle. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Je pense que les municipales...
Donc tout le monde est le bienvenu pour vous rejoindre dans votre action?
Ah oui, on va pas regarder, on va pas distribuer des brevets de je ne sais quoi. Aujourd'hui, on peut compter sur 50% d'adhérentes et d'adhérents en plus. C'est une responsabilité immense que de les accueillir, que d'organiser finalement un grand mouvement qui est... en mesure d'offrir une alternative au pays et de prendre le pouvoir et d'engager enfin cette transition.
Vous dirigez Paris, les écologistes, avec Anne Hidalgo, et pourtant vous présentez un candidat au municipal, David Béliard. Pourquoi le bilan écolo d'Anne Hidalgo est-il insuffisant? C'est aussi le vôtre.
Hein. Mais le bilan d'Anne Hidalgo, le bilan écolo, c'est le nôtre. C'est-à-dire que toutes les propositions qui sont mises en œuvre, elles ont été portées par les écologistes. Vous le disiez...
Elle n'a servi à rien, elle.
Eh bien, c'est un rapport de force et nous espérons l'emporter dans bon nombre d'arrondissements. Je pense au 20e arrondissement et je salue Antoinette Gull qui peut être la prochaine maire du 20e, comme Sylvain Réfaux peut être le prochain maire du 10e arrondissement. On peut emporter Paris et gouverner Paris et engager cette transition. On a des candidatures depuis 1977 à Paris. C'est tout à fait normal de présenter un projet aux électeurs et ensuite, sur la base de ce rapport de force, d'envisager avec qui gouverner. Eh bien, nous disons que nous pouvons être en tête dans bon nombre d'arrondissements et à la faveur d'un troisième tour, peut-être David Béliard peut être le prochain maire, le premier maire écolo de Paris.
Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, le chantier de Notre-Dame à Paris est-il bien géré et en toute transparence selon vous? Je signale, je rappelle que les travaux vont reprendre, si tout va bien, le 19 août.
Mais là-dessus, je pense qu'il y a deux problèmes. Il y a l'empressement, l'arrogance presque d'Emmanuel Macron à dire qu'il faut reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Je ne vois pas pourquoi. Il n'y a pas de raison de dire qu'il faut se presser en 5 ans, pour les Jeux Olympiques par exemple, à reconstruire Notre-Dame, alors qu'on sait qu'il a fallu un siècle ou plus pour la construire.
Je vous parle de cette pollution au plomb qu'on a décelée.
Ça, c'est le premier problème.
Est-ce que dans ce domaine-là, cette pollution au plomb...
Et le, alors, le deuxième problème,
non, on manque ou est-ce que les Parisiens doivent être inquiets?
Non, on manque de transparence, clairement, et je pense que les élus écologistes l'ont déjà dénoncé, je pense à David Béliard ou à Jacques Bouteau. La préfecture a retenu des relevés de plomb, et donc là, il faut faire toute transparence, mais ces chantiers sont souvent instrumentalisés. Je pense à l'idée là qui a été sortie il y a quelques jours de mettre Notre-Dame sous cloche. C'est complètement ridicule, c'est-à-dire que ce plomb est issu de Notre-Dame, du panache, et donc il est évidemment retombé. Il est retombé alentour, et donc ce qu'il faut, c'est une cartographie de la situation de plomb, des plombémies, et puis peut-être il faut aller vers le dépistage obligatoire des enfants, à la rentrée par exemple, des enfants qui sont dans les zones concernées. Et il faut faire toute transparence, évidemment, sur le sujet.
Le rapport du GIEC la semaine dernière sur les terres et l'alimentation, si on accepte ses conclusions, Julien Bayou, quel changement au plus vite chez nous, ici en France?
Eh bien, d'abord, c'est l'assiette. Je pense que le rapport du GIEC, il est très clair. Ce que nous avons dans nos assiettes peut détruire ou peut sauver la planète. Et donc, il faut refuser ces traités commerciaux, le CETA, le Mercosur qui... font traverser des carcasses de viande à travers l'Atlantique, qui permettent aussi de concurrencer l'agriculture française qui se passe progressivement de produits toxiques. Ça n'a aucun sens d'autoriser des importations de produits traités toxiques par l'Uruguay ou par l'Argentine. Il y a toute la question de la rénovation thermique, qui c'est vraiment... un enjeu majeur de création d'emplois, de réduction de la facture des ménages qui, en fait, se chauffent dans des...
Mais ça, le gouvernement le fait?
Non, il le dit. Il le fait pas.
il n'y a aucune action, aucune aide financière actuellement pour la rénovation.
Très peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un empile. Nicolas Hulot avait démissionné, je crois que c'était d'ailleurs sur cette antenne. Il avait dit sur la rénovation thermique, on n'y est pas. Sur les pesticides, on n'y est pas. Sur la protection du littoral, on n'y est pas. Sur la biodiversité, on n'y est pas. Sa démonstration était étincelante.
Non, mais on pouvait pas dire qu'il n'y a aucune aide. Les aides existent et elles ne sont peut-être pas suffisantes.
Mais ce n'est pas eux qui les ont mis en place. Ces aides ne sont pas suffisantes. Là, ce qu'il nous faut à l'échelle de l'Europe, c'est par exemple une réorientation de la politique agricole commune. C'est ce pourquoi se battent Yannick Jadot, Benoît Biteau, Marie Toussaint, David Cormand, Karim Adeli et les autres. C'est un combat, mais en face de nous, on a le gouvernement français qui ne veut pas bouger. Sur la rénovation thermique, il s'agit de mettre des milliards d'euros. Il s'agit de protéger la santé des gens. C'est un 13e mois, vous savez, si vous rénovez les appartements des familles les plus précaires, c'est un 13e mois en économie de chauffage. Et évidemment, c'est la création d'emplois. En fait, c'est finalement, nous on appelle ça le Green New Deal, c'est finalement le pendant des grands travaux de Roosevelt dans les années 30, et c'est ce qui avait permis aux États-Unis de se sortir de la crise. On a besoin de ce niveau d'engagement. Aujourd'hui pour faire face au dérèglement climatique.
C'est gagnant
pour tout le monde. En termes d'emploi, c'est phénoménal.
Vous dénoncez le peu d'action du gouvernement pour la défense de l'environnement. Cette convention citoyenne sur le climat qui va démarrer chez nous en octobre avec 150 citoyens tirés au sort, ça va durer 5 mois. Croyez-vous à l'efficacité de cette procédure pour la mise en place de fortes mesures pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Alors c'est une question difficile, parce que moi je crois beaucoup à ces conventions citoyennes, je crois beaucoup à la délibération, au tirage au sort et au fait de former ces personnes qui acceptent de consacrer du temps.
Donc c'est une bonne idée.
C'est une bonne idée. Par contre je crois très très peu aux engagements de ce gouvernement. Et donc à la fois j'ai toute confiance dans Cyril Dion et Laurence Hubiana qui vont être les garants de ce travail.
Donc vous ne croyez pas que les résultats de cette convention seront soumis à référendum ou directement
voilà,
au Parlement?
Voilà, vous avez bien résumé. C'est-à-dire j'ai toute confiance dans ce qui va sortir du bon sens, j'ai envie de dire raisonné, éclairé, de ces citoyennes et ces citoyens qui vont dire, bah oui, il faut sortir des pesticides et pour ça, il faut accompagner les agriculteurs, qui vont dire, bah oui, la rénovation thermique, comme j'en parlais à l'instant, c'est une bonne solution pour le pays, etc. Je pense que c'est ce qui va ressortir de la convention. Par contre, ça va tellement à l'encontre de toute la politique menée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe que je ne les vois pas, mais j'espère être démenti, je ne les vois pas engager à la fin de cette convention ce qu'ils n'ont pas fait pendant 2 ans.
Au standard, c'est maintenant aux auditeurs de vous poser des questions. Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts au 01 45 24 7000. Beaucoup de questions. Philippe est avec nous, il est à Paris dans le 10e arrondissement. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Julien Bayou vous écoute, Philippe.
Eh bien, comme beaucoup de Français, j'ai une conscience écologique de plus en plus affirmée. J'ai récemment acheté un vélo électrique dont je me sers qu'en montée pour faire un peu de sport. Et je remercie à chaque coup de pédale la fée électricité. Je voulais quand même demander à Monsieur Bayou comment on pouvait être aussi schizophrène en discréditant le nucléaire alors que c'est la seule énergie capable de subvenir à tous nos besoins d'électricité dans le futur.
Julien Bayou.
Eh bien, merci Philippe et déjà bravo pour votre engagement. Je pense que c'est la clé, hein, le fait de l'engagement, d'abord le cheminement individuel, puis le passage au collectif et puis bien sûr l'action politique. Sur le nucléaire, c'est un mythe que c'est la seule énergie. C'est une énergie extrêmement chère. Vous savez que les EPR, on ne sait même pas vraiment si on arrivera à boucler le chantier de Flamanville, produit une énergie beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chère que le renouvelable actuellement, d'origine photovoltaïque ou éolien. Et encore, le nucléaire capte l'essentiel de la recherche-développement en matière d'énergie. De la même manière, il y a un risque. Voilà, il y a un risque. On a encore eu une fuite de tritium en Île-de-France. C'est pas possible de faire courir ce risque à la population. Et donc moi, je regrette que depuis 20 ans, on n'ait pas écouté, ou depuis 40 ans, on n'ait pas écouté les écologistes et qu'on n'ait pas mis le paquet dans le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on vit encore sur les acquis du nucléaire, mais on est en train de perdre des années et des années de compétitivité, d'excellence dans le développement des renouvelables. Et c'est pas comme ça qu'on développe une autonomie énergétique. Et donc nous, le souhait des écologistes, c'est d'investir massivement dans les renouvelables et puis de développer ces unités au plus proche de la consommation. C'est aussi comme ça qu'on bâtit
un
réseau plus résilient.
Les énergies renouvelables seraient capables de remplacer toute l'énergie fournie par le nucléaire ?
Mais dès aujourd'hui, vous savez qu'au Portugal, en Allemagne, en Espagne, mais parce qu'on a pris énormément de retard.
En France, ça va prendre beaucoup de temps.
Mais à chaque fois qu'on recule, comme le fait le gouvernement encore récemment, la réduction du nucléaire, eh bien on prend du retard sur le développement des renouvelables. On ne peut pas faire en même temps le développement du nucléaire et le renouvelable. Il faut choisir de réduire progressivement. Quand on dit la sortie du nucléaire, on ne dit pas sortir du jour au lendemain. On dit acter aujourd'hui la sortie progressive au fur et à mesure de l'obsolescence des centrales et pendant ce temps-là, passer en charge le développement des renouvelables.
Autre appel, encore Philippe, c'est un autre Philippe, il est à Auxerre et il écoute France Inter. Bonjour Philippe à Auxerre.
Oui, bonjour monsieur.
Julien Bayou vous écoute.
Bonjour.
Bonjour monsieur Bayou. Dites-moi, que pensez-vous du positionnement, enfin de ce qui semble être le positionnement de monsieur Jadot quant à la politique libérale, voire ultralibérale, sachant que cette économie nous mène, en tout cas... socialement, humainement, droit dans le mur, par l'exploitation qu'elle génère et toute cette mainmise de l'homme sur l'homme.
Julien Bayou, encore allusion aux propos récents de Yannick Jadot qui défendu la libre entreprise.
Là encore, l'économie de marché. Là encore, c'est un faux procès. Je vous rejoins, Philippe. Vous parlez de la mainmise de l'homme sur l'homme. On pourrait rajouter la femme et puis la nature. Et donc, l'essentiel de l'écologie, c'est justement dire que l'économie ne peut pas être... Sans limite, que la recherche du profit ne peut pas être sans limite. Et donc, il faut mettre des barrières. Il faut mettre des barrières qui protègent le bien commun. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce que font les élus locaux, régionaux ou les députés européens. Par exemple, quand Yannick Jadot s'élève contre le traité CETA, c'est précisément pour protéger les biens communs, pour protéger les droits des travailleuses et des travailleurs, des consommatrices et des consommateurs. Et donc, je crois qu'il y a eu... un mauvais procès qui a été instrumentalisé par certains amis. L'écologie, c'est mettre un frein au marché, tout simplement. Donc l'écologie, si on veut raccourcir, est incompatible avec le libéralisme.
L'écologie est une partie essentielle de la gauche.
Alors, l'écologie, peut-être c'est l'avenir de la gauche, si vous voulez qu'on le formule comme ça, ou l'écologie, en tout cas, clairement, en est l'héritière. Bien sûr, si je vous parle des valeurs, ou si je vous parle des combats des droits des femmes, de la décolonisation, de la lutte contre l'impérialisme, des droits, bien sûr, des salariés, ce sont des combats, des valeurs que nous reprenons à notre compte.
Les socialistes, la France insoumise, le mouvement de Benoît Hamon, Génération, ils sont écologistes ?
On a vraiment vu, je pense, il faut être clair, des discours de plus en plus forts, sincères, engagés sur l'écologie, bien sûr. Et donc maintenant, il s'agit d'en faire la priorité. Et puis d'arrêter, j'ai envie de dire, ces faux procès sur y a-t-il une priorité entre l'écologie et le social. Moi, je voudrais dire ici que c'est inextricable et que l'action, par exemple, d'un Damien Carême à Grande-Synthe montre à quel point agir contre les inégalités environnementales, c'est agir contre les inégalités sociales. C'est un petit exemple, si vous me l'accordez. Ils sont en train de financer à Grande-Synthe un revenu minimum garanti, c'est-à-dire un embryon de revenu de base, vraiment pour lutter immédiatement, très concrètement, contre la pauvreté. Et c'est financé par les économies faites grâce à la transition énergétique, et notamment l'éclairage de la ville. Voilà l'exemple du lien inextricable entre écologie et justice sociale.
Yvan est avec nous. Bonjour Yvan. Vous vouliez interroger Julien Bayou, c'est le moment.
Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Ça fait 40 ans que, depuis Brice Lalonde, les écologistes ont dans leur programme le référendum d'initiative citoyenne à la Suisse, et on ne le voit jamais.
Mettez-nous au pouvoir.
Mettez-nous au pouvoir. En 2012, vous aviez le RIC pour les législatives à la demande de 5%. Aucune proposition de loi n'a été déposée malgré de nombreuses relances de notre association. Alors ce qu'on voudrait savoir, c'est si en 2020, vous allez prendre un engagement signé par vos candidats en faveur du RIC communal et surtout avec l'engagement de ne pas fusionner si la nouvelle liste ne reprenait pas cet engagement.
Julien Bayou.
Oui, je ne peux pas forcément rentrer dans les détails, Yvan, mais clairement, nous, les écologistes, nous sommes pour cette participation accrue des citoyens. En gros, remettre de la démocratie en continu, là où la démocratie par intermittence, c'est vous voter une fois et puis pendant 5 ans, vous n'avez plus voix au chapitre. Et cette idée du référendum d'initiative citoyenne, nous la portons, comme vous dites, depuis longtemps. Et dans les exécutifs régionaux, par exemple, on essaie de le mettre en œuvre. En Ile-de-France, Valérie Pécresse le refuse. Mais pourtant, ça a été voté. Et au niveau communal, je pense à l'exemple d'Éric Piolle à Grenoble, qui l'a mis en place et qui s'est fait censurer par le Conseil d'État à la demande du préfet. Donc vous voyez qu'il y a un vrai engagement de la part des écologistes là-dessus. Nous croyons à la délibération et à la participation des citoyens. Oui. Ce sont les écologistes, par exemple, qui portaient depuis longtemps les budgets participatifs qui avaient été inventés à Porto Alegre à la fin des années 90.
Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, que pensez-vous de l'arrestation dans le Morbihan d'un activiste italien, Vincenzo Vecchi, condamné à 13 ans de prison en Italie pour avoir participé à des manifestations violente lors du sommet du G8 à Gênes en 2001.
Et oui, j'ai eu vent de cette arrestation. Là, la crainte, clairement, pour être très concret, c'est que Matteo Salvini en fasse une proie, un exemple. Et donc, on n'est pas sur un meurtrier, comme il y avait pu avoir avec les Brigades Rouges. Mais je crois que la doctrine Mitterrand de l'époque était intéressante. Et elle disait, écoutez, si les personnes, les Italiens qui ont fui l'Italie et se sont réfugiés en France, sont intégrés dans la population et que la police n'a rien à leur reprocher, eh bien, il n'y a pas de raison de les renvoyer en Italie. De ce que j'ai compris, ce Vincenzo est parfaitement intégré en Bretagne. Il y a même un collectif de citoyens qui réclament le fait qu'il ne soit pas renvoyé vers l'Italie. Et j'ai envie de dire, il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, peut-être la situation était différente. Mais là, avec cette extrême droite qui est au pouvoir, je crois qu'il y a un vrai risque à le renvoyer là-bas.
Elle s'appelle Béatrice Fressenon, elle est directrice adjointe du cabinet de la ministre des Transports et elle a annoncé ce week-end sur sa page Facebook son départ en vacances en avion et elle a détourné pour cela une couverture de la célèbre série des albums de jeunesse Martine avec ce titre « Martine, on s'en branle de Greta Thunberg. Qu'est-ce que vous pensez de ce détournement? C'est de l'humour ou c'est plus politique?
Là, je crois que c'est très politique. Bien sûr, les gens ont le droit de partir en vacances et de prendre l'avion, même s'il faut réduire et peut-être compenser. Mais là, je crois que c'est plus politique parce que je comprends pas cet acharnement face à ce qui est une adolescente qui prend appui sur la science pour nous alerter les adultes et les gouvernements. Finalement,
qu'il faut moins prendre l'avion.
Oui, qu'il faut moins prendre l'avion, qu'il faut prendre la mesure de ce budget carbone qu'on est en train de dépenser à vitesse grand V. Là encore, ce sont les chiffres du GIEC. Il nous reste 8 ans et demi, 9 ans, au rythme où nous consommons ces carbones. Ce budget carbone, c'est en train de s'éteindre. Et au-delà, on ne sait pas enrayer le dérèglement climatique. C'est ça que dit Greta Thunberg. C'est un mouvement mondial qui est issu de son opiniâtreté, de sa mobilisation. Et je vois souvent des adultes, des personnes plus âgées, qui essayent de la tourner en dérision, qui la traitent de cyborg. Je trouve ça vraiment scandaleux. Et ce sont eux, les obscurantistes, et elle qui fait appel à la science.
Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, était l'invité de France Inter ce matin.
Merci beaucoup.